Bon, je rappelle aux gens qui viennent de se joindre à nous qu'il y a eu un tremblement de terre. De ce que je comprends, c'est dans le bout de Joliette, magnitude 4, première lecture, et que ça a été ressenti un peu partout dans la grande région métropolitaine. Là. C'est une cascade de courriels qui entre autant de la Rive-Nord, bien sûr, mais Montréal, Rive-Sud également, une partie des Laurentides. Alors, on aura des précisions tantôt. Toi, Pierre-Yves, tu l'as ressenti?
Oh, pas à peu près.
C'est vrai?
Je suis dans le sous-sol, moi, puis c'était comme si un gros dirou était passé devant la maison, mais deux fois, mais très rapidement. C'était pas épeurant, là, mais disons que la maison a craqué, puis comme elle a pieuté, j'ai regardé mes craques de gyps, j'ai dit « tout correct? » Tout est bon.
OK. Mais ça ne dure pas longtemps, mais ça surprend.
Exact.
OK. Bon, Bill Gates, qui fait la manchette en raison de son divorce depuis quelques jours maintenant, puis là, bon, ben, comme dans tous les cas de divorce médiatisé puis de bataille autour du patrimoine, qui dans son cas est assez spectaculaire, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, notamment le fait que le conseil d'administration de Microsoft avait été informé de ce qu'on appelle une relation inappropriée de M. Gates avec une employée.
Bon, inappropriée, on dit, M. Gates dit relation qui s'est terminée dans une relation amicale, disons, mais c'est pas ça le problème. Quand tu es une entreprise cotée en bourse, c'est pas le fait que le président a une relation extra-conjugale le problème, c'est sa vie privée. Le problème, c'est que ça peut amener plusieurs choses. Un, tu peux te placer en position de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y a une personne en dessous de toi avec laquelle tu as une relation affective ou peu importe, et qui, dans le fond, se retrouve sous ton évaluation. Donc, tu pourrais être en conflit d'intérêts mieux ou moins bien l'évaluer. Ça amène le côté de possible menace d'abus de pouvoir. Et c'est pas juste des, disons, dans le code d'éthique, c'est des codes de conduite des entreprises américaines, surtout quand elles sont cotées en bourse, de dire on ne peut pas lier des relations intimes avec quelqu'un qui est sous notre responsabilité hiérarchique. Évidemment, chez Microsoft, tout le monde l'était parce que Bill Gates était en numéro un
ben oui.
À l'époque. Et donc, mais que la relation soit consentie ou non, extra-conjugale ou non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça contrevient au code d'éthique ou de conduite des entreprises. Et troisième point, quand une entreprise cotée en bourse, on fait ça aussi pour éviter les menaces de chantage parce que t'as vu Jeff Bezos avec le National Enquirer qui tentait de, disons, de le blackmailer en bon français. Donc, on essaie dans ce temps-là peut-être de mettre le président ou la personne en position d'autorité dans une situation un peu, disons, névralgique et problématique. Et donc, on veut éviter tout ça. Donc, on t'a dit, fais attention à ce que tu fais. Et je ne sais pas si tu te souviens, M. Steve Easterbrook de McDonald's avait été obligé de démissionner parce qu'il avait entretenu des relations, disons, non adéquates avec un employé ou une employée. On n'avait pas la nature, mais il avait été obligé de démissionner. Même chose à la présidence de Hewlett-Packard et d'Intel. Donc, c'est des choses qui ont de l'air, d'un point de vue extérieur, pour certaines personnes, de dire, voyons, c'est-tu consensuel ou non? Attention, c'est parce que c'est une entreprise cotée en bourse, qui a des codes de déontologie, des codes d'éthique, et qu'il y a l'importance de l'apparence que tout est correct. Et d'ailleurs, dans les entreprises, les PME, on voit souvent des relations entre employés et supérieurs, entre employés et patrons. Et on dit souvent, l'important, c'est de déclarer la relation. Parce que si tu sais, par exemple, qu'un directeur de service ou une directrice de service a une relation avec un ou une employé sous son aile, ben on peut mettre des pare-feux, de dire « OK, on va déplacer l'employé ou le patron ne sera plus responsable de l'évaluation ou de la rémunération parce que ça cause problème.
Okay. »
C'est comme ça dans toutes les entreprises.
Question du jour, il faut avoir combien d'argent de côté à 40 ans?
Oui, il y a un article de Daniel Germain en fin de semaine dans le Journal de Montréal qui disait « À 40 ans, ça prend 3 ans de salaire brut, règle du pouce. » Je n'ai jamais vu du monde réagir comme ça. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas dire ça. C'est une règle approximative. Oui, mais regardons plusieurs points. Un, c'est sûr que c'est une règle du pouce parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les mêmes niveaux, pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes conjoints et conjointes, donc qui sont ce que j'appelle la loterie conjugale. Et tu as aussi, avant de paniquer, regardez ce que vous avez. On ne parle pas juste du REER ici. On parle de l'actif net, donc il y a une part sur la maison. Il y a un régime de retraite de l'employeur. Paul, combien de personnes m'écrivent puis me disent « Quand on calcule notre épargne retraite, est-ce qu'on doit tenir compte du régime de retraite de l'employeur? » Chaque fois, je tombe en bas de ma chaise. Tu contribues 10 % de ta paye ou 6 % de ta paye tous les jours, tu sais, tous les mois ou peu importe, à chaque fois que tu as de l'argent, et tu te dis « Est-ce que je dois tenir compte dans mon actif? » Ben oui, c'est juste que c'est fait par ton employeur, mais ça compte. Il faut aussi penser qu'il y a des gens qui vont être chanceux à la loterie parentale et hériter d'un héritage miraculeux, assurance vie, terrain, chalet, immeuble ou conjoint. Si tu as un conjoint plus âgé que toi, il y a la possibilité que tu hérites aussi. Donc, c'est le bout qu'on ne peut pas vraiment mettre dans le calcul parce que c'est un peu malsain, mais l'héritage fait partie quand même de ce qui nous attend. Et finalement, dans le calcul de 40 ans, c'est sûr qu'il arrive un moment où il y a des gens qui ont des grandes variations de revenus. Je te donne un exemple. Un vendeur qui me dit « Pierre, je faisais 40 000 toute ma vie, là, je suis monté à 80, mais 3 fois 80, j'arrive pas à 40 ans, ça donne pas ça mon actif net. » Mais c'est sûr, tu as monté de salaire trop drastiquement, donc donne-toi une chance. Évidemment, il y a les malchances de la vie comme avoir fait des enfants.
Veux-tu te taire? Il y en a qui vont prendre ça au premier degré.
Non, je blague parce que, évidemment, je connais un gars qui me parle et qui me dit tout le temps « Hey, ma situation financière me stresse. » Je dis « Hey, t'as pas d'enfants. » Il dit « Ouais, puis, mais t'as aucun stress lié à l'université, aux malchances de tes enfants, préparer leur avenir, leur inquiétude, penser à leur mise de fonds de maison, leur capacité d'étudier, leur capacité d'être malade ou pas. » Et donc, si vous épargnez de 10 à 20% de votre revenu, là je mets 10 à 20, là, une fourchette, là, par année, selon votre revenu, c'est correct. T'sais. Des fois, on se met trop de pression, Paul, pour aller trop vite.
C'est vrai.
Mais avoir des enfants, c'est pas de malchance.
Non,
c'était de l'humour.
Non, c'était une blague du lundi.
C'est ça.
Merci.
Salut.
Salut. Il est 7h22. Je rappelle ce tremblement de terre, 7h03 environ. Secousse 4 en termes d'impact, si vous voulez. Et ça a été ressenti, d'abord, on a identifié l'épicentre. C'est pas encore hyper précis, mais c'est dans la région de Joliette. Et ça a été ressenti un peu partout dans la grande couronne de Montréal. Là. J'ai des gens qui m'écrivent autant de la Rive-Sud que de Montréal, Villeray, Rosemont, que des gens qui se retrouvent plus au nord, Laval également. Quelqu'un me dit « J'étais dans mon sous-sol, puis j'ai sursauté comme si un camion passait. » Ben c'est un peu l'impression, disons, largement partagée ce matin. Marc, de ton côté.